une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 20 juillet, ravi de vous retrouver en toute saison. Nous sommes là pour faire le point sur 7 jours d'événements grâce à la richesse des reportages de la rédaction. Et ces reportages, nous avons choisi de les mettre en valeur aujourd'hui dans un numéro spécial de votre magazine. 100% reportage, mais sans football, dont on vous a beaucoup parlé ce matin. C'est donc une nouvelle édition d'une semaine d'actualité qui commence. Nos étapes seront nombreuses. Rendez-vous également avec vos messages tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Vous pouvez aussi écouter ce magazine sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio, www.rfi.fr, et sur l'application RFI Pure Radio.
3, 2, 1, 0. All engine running.
Nous célébrons ces jours-ci le cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin, astronautes américains de la mission Apollo 11, auxquels il faut ajouter Michael Collins, qui tournait autour du satellite de la Terre pendant ce temps-là. C'était le 20 ou le 21 juillet 1969, selon les endroits du monde où l'on se trouvait. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent peut-être, ils ont peut-être vu ces premiers pas en direct à la télévision. Le souvenir de ce jour historique, un petit pas pour moi, un pas de géant pour l'humanité, est évidemment entretenu au musée de l'espace de Washington où nous a emmené Anne Corpé.
Les touristes se pressent devant une copie authentique du module qui a aluni. Celui-ci n'a jamais servi, mais il a été fabriqué en même temps que l'autre, qui se trouve toujours sur la Lune. Leslie était déjà père de famille en 1969. Il se souvient parfaitement de la mission Apollo 11.
Il était 22h56. J'avais de jeunes enfants à l'époque et je les avais réveillés pour qu'ils regardent cela à la télé. Il fallait qu'ils voient ça. C'était très important. C'était la plus belle réalisation de l'histoire de l'humanité.
Joey est venu au musée de l'air et de l'espace depuis l'Alabama avec ses petits-enfants.
J'avais 20 ans cette année-là et il y avait un vrai sentiment de fierté nationale. Aller là où personne ne s'était jamais rendu auparavant, je pense que c'est vraiment l'esprit américain. Et nous l'avons toujours. Quand on se fixe un objectif, on y parvient. C'est en nous.
À ses côtés, Jason, qui n'avait que 6 ans en 1969, intervient.
Ce n'était pas seulement l'Amérique, c'était un événement mondial. C'est la race humaine qui est allée, non ?
Dans une vitrine un peu plus loin, sont exposés des objets qui ont véritablement été à bord d'Apollo 11, une brosse à dents, une montre, des lunettes de soleil, le kit médical lunaire. Ça vous fait quoi de voir ces objets qui sont allés sur la Lune ?
Je pense qu'on doit continuer à conquérir l'espace.
Je suis d'accord, c'est enthousiasmant, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas.
Le président a promis que l'Amérique renverrait des hommes sur la Lune. Donald Trump envisage même d'aller sur Mars. C'est l'un des rares projets du président qui semble fédérer l'ensemble des Américains.
So which one of you is ready to go to Mars? Are you ready? And I think you're ready. I know you're ready, right? We just discussed that. She'd like to go to Mars very quickly. Who's ready to go to Mars up there?
Une semaine d'actualité, restons aux États-Unis pour parler cette fois du présent et de propos jugés racistes pour beaucoup de l'actuel président Donald Trump, Christophe Pagé.
Donald Trump a conseillé à 4 parlementaires démocrates résolument à gauche de ne pas donner de leçons à son gouvernement et de retourner d'où elles viennent, c'est-à-dire, je cite, « d'endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité ». Parmi ces 4 jeunes femmes qu'il ne nomme pas, Alexandria Ocasio-Cortez, originaire de Porto Rico, un territoire américain, Ilhan Omar, venue de Somalie lorsqu'elle était mineure, et Rachida Tlaib, la première américaine d'origine palestinienne assiégée au Congrès. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Américains, élus et autres, ont rappelé qu'ils subissent ce genre d'antienne retournent dans ton pays depuis leur enfance. Et qu'entendre aujourd'hui ces mêmes mots dans la bouche de leur président est un choc. C'est à cela que ressemble le racisme. Nous sommes ce à quoi ressemble la démocratie, a souligné Ayanna Pressley, une des élus visées. Pour le moment, Donald Trump n'a réussi qu'à resserrer des rangs démocrates divisés ces derniers jours. La semaine dernière, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait critiqué les propos très à gauche des personnes aujourd'hui visées, craignant qu'ils ne les empêchent de battre Donald Trump en 2020. Mais sur cette affaire, elle a été la première à réagir, rejetant des commentaires xénophobes destinés à diviser notre nation.
À ce sujet, écoutez ce que disait hier l'une des parlementaires attaquées par le président américain. Il s'agit d'Alexandria Ocasio-Cortez. Elle est élue de New York à la Chambre des représentants.
It's taken us 240 years.
Il nous a fallu 240 ans pour avoir cet unique mélange au Congrès à cet instant. Et nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous ne reviendrons pas à l'époque de l'injustice. Nous ne reviendrons pas sur nos droits. Nous ne refuserons pas la liberté à nos frères et sœurs transfrontaliers. Nous ne renierons pas notre propre humanité à la frontière. Nous ne reviendrons pas en arrière, nous irons de l'avant.
Et ces propos du président Donald Trump ont fait le tour du monde, jusqu'en Grande-Bretagne, par exemple, en plein débat électoral sur le choix du futur Premier ministre la semaine prochaine, Londres, Margot Turgy.
Jeremy Hunt est le premier à répondre. Sa condamnation des tweets de Donald Trump est sans appel.
J'ai trois enfants à moitié chinois et ils sont citoyens britanniques. Si quiconque leur disait « retournez en Chine », je serais véritablement consterné.
Même son de cloche chez Boris Johnson.
Je pense que les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis sont extrêmement importantes. Mais si vous êtes le leader d'une grande société multiethnique et multiculturelle, vous ne pouvez tout simplement pas utiliser ce genre de langage.
Des déclarations saluées par les spectateurs du débat, mais quand le journaliste leur demande si le président américain a eu des propos racistes, les deux potentiels futurs premiers ministres se montrent beaucoup plus mesurés.
J'ai déjà dit ce que je pensais des mots de Donald Trump.
Donald Trump est le président d'un pays qui est notre plus proche allié, donc utiliser ce type de langage à propos du président des États-Unis n'arrangerait en rien la situation.
Une condamnation en demi-teinte, donc. Jeremy Hunt, comme Boris Johnson, n'oublie pas qu'ils feront potentiellement face à Donald Trump en tant que Premier ministre d'ici quelques jours.
L'Iran maintenant dans cette édition spéciale ce 20 juillet 2019 avec un drone iranien qui aurait été abattu par l'armée américaine. Preuve que la tension est plus vive que jamais dans la région. Thomas Arms.
C'est le président américain lui-même qui l'a annoncé sur Twitter, mais aussi devant la presse à la Maison-Blanche. Hier, dans le détroit d'Ormuz, ce passage entre l'Iran et Oman, un drone iranien aurait menacé la sécurité d'un navire de guerre américain, l'USS Boxer.
Le boxeur a pris une mesure défensive contre un drone iranien qui s'était approché très très près, un peu moins de 100 mètres, et qui a ignoré les multiples avertissements. Le drone a été immédiatement détruit. C'est la dernière des actions provocatrices et hostiles de l'Iran.
Donald Trump a appelé les autres nations à condamner Téhéran et à protéger leur navire. Cela intervient alors que quelques heures plus tôt, les gardiens de la révolution iranien ont annoncé avoir saisi dimanche dans le détroit un pétrolier accusé de faire de la contrebande et arrêté les 12 membres de son équipage. Une escalade sérieuse alors que les États-Unis ont décidé hier l'envoi de 500 militaires supplémentaires dans la région vers une base en Arabie Saoudite.
Et l'Iran a démenti la destruction d'un de ses drones à Téhéran, Diavosh Ghazi.
L'Iran a officiellement démenti les propos de Donald Trump. Tous les drones iraniens dans la région du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz, notamment le drone mentionné par le président américain, ont mené à bien leur mission de surveillance et sont rentrés sains et saufs dans leur base, a déclaré le porte-parole de l'état-major des forces armées, le général Lashkari. Un peu plus tôt, le vice-ministre des Affaires étrangères avait également affirmé que peut-être le navire américain avait abattu par erreur un de leurs propres drones. Le 20 juin dernier, l'Iran avait abattu un drone américain qui se trouvait selon Téhéran dans son espace aérien. La déclaration du président Trump intervient quelques heures après que les gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne, ont annoncé avoir arraisonné quelques jours plus tôt un pétrolier étranger qui transportait du pétrole de contrebande. Une action intervenue après la saisie d'un pétrolier iranien par la marine britannique à Gibraltar début juillet. La tension ne cesse de monter entre Téhéran et Washington dans la région du Golfe Persique. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, accusant l'Iran de mener des actes de déstabilisation.
Vous écoutez RFI, c'est une excellente idée, une semaine d'actualité en l'occurrence. Merci de votre fidélité.
7 jours dans le monde.
Nous poursuivons notre voyage dans cette édition où nous mettons en valeur les reportages de la rédaction, avec une étape cette fois en Russie où des voix tentent de se faire entendre pour protester contre un processus électoral fort peu démocratique avant les élections municipales à Moscou où une trentaine de candidats ont déjà été rejetés dans la capitale russe mardi. Daniel Valo.
Pour les candidats invalidés et pour leurs partisans, rien ne saurait justifier la décision prise par la commission électorale. Parmi les candidats exclus du scrutin, Ivan Jdanov, un avocat proche d'Alexei Navalny.
Je viens de le dire pendant le meeting, je suis en rage. Ce n'est pas juste un refus, c'est un refus cynique et honteux. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas que les vrais candidats participent. Et ils n'acceptent que des candidats qui ne représentent aucune menace pour le maire de Moscou.
Parmi les manifestants venus apporter leur soutien au candidat recalé, nous rencontrons Yulia, une jeune moscovite venue participer au rassemblement malgré les trompes d'eau qui s'abattent sur Moscou.
Je considère que mes droits, mon choix doivent être respectés par l'État. Je veux qu'on me respecte et qu'il y ait une justice dans le pays où je vis. Nos choix ne sont absolument pas pris en compte et bien sûr ça me dégoûte. Ça me donne envie de lutter pour mes opinions, c'est indispensable.
Les candidats de l'opposition ont déjà annoncé qu'ils feraient appel de la décision. Ils demandent également à leurs partisans de manifester samedi prochain à Moscou. Des rassemblements quotidiens sont également prévus pour maintenir la pression sur les autorités.
Après Moscou, Istanbul, où cette fois ce sont les partisans du régime, régime de Recep Tayyip Erdogan, qui se sont fait entendre 3 ans après la tentative de coup d'État. Reportage d'Anne Andlauer.
Chaque année, Medine participe aux commémorations de la tentative de coup d'État. Sous son voile bleu marine, elle dit approuver sans réserve les arrestations en lien avec le soulèvement. Plus de 30 000 personnes ont déjà été emprisonnées.
La lutte doit continuer. Ces traîtres à la patrie doivent être condamnés aux plus lourdes peines.
En plus des arrestations, plus de 130 000 fonctionnaires ont été limogés. Le pouvoir prétend nettoyer les institutions de tous les partisans de Fethullah Gulen, ce prédicateur accusé d'avoir ordonné le coup de force. Noral Chevik estime lui aussi que les purges doivent continuer.
On parle d'un réseau qui s'est infiltré sournoisement pendant des années dans notre pays. Il serait naïf de penser qu'il a été éliminé et que certains ne sont pas tentés de recommencer.
Sedat, un retraité à l'épaisse moustache, agite énergiquement un drapeau turc. Comme la très grande majorité de ses compatriotes, il n'a aucun doute sur la responsabilité de Fethullah Gulen. Mais il accuse aussi le président Recep Tayyip Erdogan d'avoir fermé les yeux pendant des années sur l'infiltration des fidèles de l'imam dans la fonction publique.
Il y a les gulenistes, d'accord, mais ça ne s'arrête pas là. Les responsabilités politiques n'ont pas encore été établies. Ceux qui ont permis à cette tentative de coup d'État d'avoir lieu doivent aussi être tenus responsables.
Ifakat, une opposante, va encore plus loin dans sa mise en cause du pouvoir.
Qui a fait ce putsch ? À mon avis, c'est un travail commun. Les gulenistes d'un côté et ceux qui nous dirigent de l'autre. Je ne crois absolument pas que l'État soit en train d'être nettoyé.
3 ans après la tentative de coup d'État, la question des responsabilités continue donc de diviser la société.
Suite de cette édition spéciale 100% reportage pour vous, avec un saut en Serbie afin de revenir sur le voyage officiel du président français Emmanuel Macron dans ce pays. L'Europe a été au cœur de cette rencontre. Anastasia Becchio était à Belgrade ce jour-là.
Applaudissements nourris lorsqu'Emmanuel Macron prend la parole en serbe. Au premier rang, Alexic et sa fille sont conquis.
Magnifique, pas bien, hein?
Francuska,
c'est ce qu'elle doit.
à la Serbie depuis la Grande Guerre.
Emmanuel Macron poursuit en français. La traduction apparaît sur les écrans géants. Puis il s'éloigne de son texte et appelle les Serbes à chercher le bon compromis avec le Kosovo. Curieusement, des applaudissements nourris retentissent. La question reste pourtant très sensible.
Non, on ne va pas donner le Kosovo. Ça, c'est à cœur à la Serbie.
Ça va être très compliqué de laisser le Kosovo pour rentrer en Europe.
Vive la France! Merci beaucoup, monsieur Emmanuel.
Bien que conquise par le discours d'Emmanuel Macron, Radmila estime que la Serbie ne doit pas céder sur le Kosovo, quitte à rester en dehors de l'Union européenne.
La Serbie et le peuple serbe ne vont jamais reconnaître l'indépendance du Kosovo. Nous n'avons pas à entrer dans l'Union européenne. Nous sommes un peuple européen, mais nous n'avons pas besoin de cette union.
En dépit des appels du président français, la recherche d'un compromis sur le Kosovo s'annonce encore très longue.
La Serbie et l'Europe, et si nous parlions de l'élection de la nouvelle présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen est devenue mardi la première présidente de cette Commission européenne, mais elle a été élue d'extrême justesse par le Parlement européen, ce qui traduit le ressentiment des eurodéputés à l'égard d'une candidate imposée par les chefs d'État. À Strasbourg alors, Anissa El-Jabri.
Sitôt élue, Ursula von der Leyen a appelé tous les eurodéputés à travailler ensemble de façon constructive et des élus disposés à coopérer avec elle, elle va en avoir besoin, fragilisée Ursula von der Leyen par cette majorité étroite. Surtout avec un vote à bulletin secret, c'est bien sûr difficile de le savoir, mais les Polonais du PiS et les élus 5 étoiles ont affirmé voter pour elle. Autrement dit, la candidate des chefs d'État et de gouvernement a été élue avec les voix des eurosceptiques et il lui a manqué beaucoup de voix dans son camp, plusieurs dizaines. À la sortie de l'hémicycle européen, on réclamait d'ailleurs chez les conservateurs un programme vraiment de droite. Comprendre les gages donnés à la gauche et les écologistes lors de son grand oral n'ont pas plu. Des écologistes qui n'ont pas voté pour la désormais présidente de la Commission. Cette élection étriquée, c'est leur responsabilité, dit-on chez les élus Renaissance. Une ambiance qui annonce des semaines à venir compliquées. Ursula von der Leyen doit désormais composer la Commission et la faire approuver par le Parlement.
Une semaine d'actualité.
Suite donc de cette émission spéciale qui privilégie les reportages de la rédaction, vous retrouverez nos invités dès la semaine prochaine, bien sûr. Et nous allons parler maintenant de l'essentiel de l'actualité française de ces derniers jours, avec d'abord la démission du ministre de la Transition écologique, François de Rugy, après les révélations du site d'information Mediapart, dont nous parlions évidemment samedi dernier avec notre invité Sedi Kaba. Un ministre soulagé, semble-t-il, lors de la passation des pouvoirs à son successeur Elisabeth Borne. On l'écoute.
Vous passez le témoin et pour moi un double soulagement. Un soulagement politique d'abord, parce que je sais votre compétence, votre détermination à conduire les transformations écologiques contre toutes les inerties économiques, sociales, mais aussi politiques. Il est aussi un soulagement plus personnel que si l'engagement politique apporte des satisfactions, il charrie aussi des difficultés, des douleurs, même parfois, pour celui ou celle qui s'engage, évidemment, mais aussi pour ses proches, mais aussi et surtout l'entourage familial, ma femme et nos enfants malmenés. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. Elle se juge aux actions et aux réalisations.
Alors, quels sont les dossiers qui attendent Elisabeth Borne, qui continue à être par ailleurs ministre des Transports ? Réponse de Stéphane Geneste.
Le premier, c'est la loi énergie et climat. Les députés ont voté en première lecture une loi plus ambitieuse que le projet initial porté par le gouvernement. Le texte fixe à l'État français des objectifs ambitieux, comme la loi neutralité carbone d'ici à 2050, une baisse à 40% de la consommation d'énergie fossile à l'horizon 2030 et la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. La loi sur les mobilités est également un dossier qui attend Elisabeth Borne. En charge de ce projet de loi depuis qu'elle est ministre des Transports, Elisabeth Borne est en train de boucler ce chantier d'envergure. Le texte reviendra en septembre en nouvelle lecture au Parlement, faute d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce texte a une composante environnementale très forte. Enfin, Elisabeth Borne devra se pencher sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et elle devra négocier la nouvelle politique agricole commune pour la période 2021-2027, actuellement fortement critiquée pour son manque d'ambition sur le plan écologique.
Il nous faut parler maintenant du CETA, du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, traité qui, selon ses opposants, présente une menace sur le plan écologique. Justement, il provoque en tout cas en France une forte mobilisation contre lui. Reportage sur un rassemblement d'opposants à ce texte à Paris ces derniers jours, Gabriel Maréchaux.
Bonjour à toutes et à tous.
CETA vomir, CETA voix qui compte. Au rassemblement anti-CETA, les pancartes ont de l'humour, mais les prises de parole sont inquiètes, comme avec Karine Jacquemart de l'ONG Foodwatch.
Ces accords de commerce, ils visent à supprimer ou à contourner tout ce qui est vu comme des barrières au commerce. Et le problème, c'est que même nos règles sociales et environnementales sont vues comme des barrières au commerce. Demain, si on veut interdire un nouveau pesticide, interdire le glyphosate par exemple, on s'expose à être attaqué par le Canada, qui va dire qu'au nom de cet accord, on n'a pas le droit de rajouter une nouvelle règle.
Thierry Jacquot de la Confédération Paysanne s'inquiète lui pour l'avenir de l'agriculture française.
On va importer des produits qu'on est capable de produire ici, qu'on importe à la limite des produits qu'on ne produit pas ici, comme le sirop d'érable, ça se comprend. Mais il faut arrêter tous ces échanges commerciaux de produits agricoles qui ne créent que des problématiques environnementales, sociales et climatiques aussi.
Pour François Ruffin, de la France Insoumise, ce traité profite seulement au lobby.
C'est pas comme si c'était des citoyens qui avaient décidé de se donner la main par-dessus l'Atlantique. C'est pas ça. C'est l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique qui ont tout fait pour que ça se fasse dans la plus grande opacité. C'est comme les vampires qui doivent sucer le sang la nuit. Et bien de la même manière, les accords de libre-échange, ils se font comme ça.
Avec d'autres, il aurait aimé un référendum sur la question.
Ce CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada, est aussi contesté dans les rangs de l'opposition politique. Julien Coquel-Rome.
Dans l'opposition, le CETA fait l'unanimité contre lui, à droite notamment, où les Républicains s'inquiètent pour la filière bovine, Pierre-Henri Dumont.
Des animaux qui ont été nourris au Canada avec des farines animales ou qui ont été dopés avec des antibiotiques favorisant la croissance pourront très bien, dans le cadre du CETA, être importés en Europe. Nous ne pouvons pas tolérer que ce que nous refusons à nos agriculteurs puisse être accepté via des éleveurs étrangers.
À gauche, plusieurs groupes font aussi front commun contre le traité, notamment sur le volet écologique. Le socialiste Jérôme Lambert ne croit pas aux garanties du gouvernement.
On nous rassure en nous disant mais il y aura un veto climatique, on en discute, mais il n'est pas dans le traité et il n'y sera pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer le traité. Le traité, il est signé, négocié et aujourd'hui, on ne peut que le ratifier ou non.
Mais la rapporteure de la majorité, Marie Lebec, croit au traité et le défend. Pour elle, l'opposition a la mémoire un peu courte.
Il faudrait juste leur rappeler que les discussions ont été initiées sous Nicolas Sarkozy, puis validées par François Hollande, et que nous sommes les héritiers de ce projet. C'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin, pour le coup. On est conscient, on a fait le travail pour aller convaincre nos collègues de la majorité, et pour essayer aussi de rallier des membres de l'opposition qui pourraient être favorables.
Malgré leurs efforts, les députés opposés au CETA ne se font pas d'illusions. Même si certains marcheurs ont émis des réserves, ils s'attendent à un vote favorable de la majorité.
Mais finalement, le vote de ce traité, de ce CETA à l'Assemblée nationale a été reporté à mardi prochain. Retrouvons Julien Coquel-Rome.
Ils auront eu gain de cause juste à temps. Mardi encore, plusieurs groupes d'opposition, et notamment toutes les formations de gauche, avaient demandé un vote solennel en conférence des présidents. Requête d'abord rejetée par la majorité, un refus décrié alors par Clémentine Autain de la France Insoumise.
Il n'y a pas de volonté d'en faire un vrai débat. Au Canada, vous savez, le débat a eu lieu. Des députés canadiens se plaignent parce qu'ils n'ont eu que 3 jours de débat. Nous, on va avoir à peine une demi-journée de débat, et avec même pas à la fin un vote solennel.
Un vote solennel finalement accepté à quelques heures du débat dans l'hémicycle, la preuve que la majorité a un problème pour faire passer son texte pour Pierre-Henri Dumont, député des Républicains opposé au CETA. Pour un vote simple, les marcheurs réticents auraient pu se faire porter pâle. Il y avait un risque que l'opposition soit majoritaire, explique le député. S'ils veulent voter contre le CETA mardi, les membres de la majorité devront donc le faire publiquement, s'afficher devant leur groupe et risquer une sanction. En reculant sur le mode de vote, la majorité chercherait donc à verrouiller la ratification du traité, même si en coulisses, un membre de la direction du groupe LAREM tempère. Ça ne change pas grand-chose, dit-il, mais un vote tard le soir, ce n'est pas l'image qu'on voulait donner.
Sept jours en France.
Et l'actualité française cette semaine, c'est aussi la présentation du texte qui va servir de base à la future réforme des retraites. Un dossier explosif, Patricia Lecomte.
Le gouvernement souhaite créer un régime universel afin de remplacer les 42 régimes existants. Il repose sur le principe qu'un euro cotisé donne les mêmes droits à tous les actifs, sans distinction de statut. Ce nouveau système restera public, donc pas de mainmise sur les retraites par des fonds de pension privés, et restera par répartition. Les actifs continueront à cotiser pour les retraités. La future retraite à points sera calculée tout au long de la carrière et non plus sur les meilleures années. Conformément aux engagements d'Emmanuel Macron, l'âge légal de départ à la retraite reste à 62 ans et le niveau des pensions ne bouge pas, mais un âge pivot à 64 ans pourrait être créé. En clair, les personnes qui partiraient avant 64 ans verraient leur retraite minorée. En revanche, celles qui travailleraient plus longtemps bénéficieraient d'une pension bonifiée. Pour les syndicats, si l'exécutif souhaite que les actifs travaillent plus longtemps, c'est pour réaliser des économies. Ils redoutent qu'à l'occasion du prochain budget de la Sécurité sociale, de nouvelles mesures soient annoncées comme une augmentation des trimestres travaillés pour obtenir une retraite à taux plein ou encore un durcissement de la décote en cas de cotisation insuffisante.
Et n'oublions pas le 14 juillet, c'était dimanche dernier, 14 juillet, son traditionnel défilé sur les Champs-Élysées. Un dernier regard avec Olivier Four.
L'émotion à la fin du défilé avec un hommage rendu aux blessés de l'armée française sur ce poème « L'étendard des Invalides ».
Étendard de souffrance, étendard de vaillance, flotte sur tous les champs de bataille pour la liberté et l'amour de la France.
Les organisateurs ont su trouver le ton juste pour évoquer la question des blessés de guerre. Ce 14 juillet, il y avait côte à côte des vétérans et de jeunes soldats blessés en opérations extérieures. Certains en fauteuil roulant, d'autres en tenue de sport. Symbole de la jeunesse aussi, avec cet immense drapeau français qui a été remis à une délégation composée de garçons et de filles issues du service national universel, cher au président français. L'autre moment fort a certainement été le défilé des 10 nations qui travaillent ensemble au sein de l'initiative européenne d'intervention destinée à faciliter la mise en place d'opérations européennes. Une première symbolique, 10 drapeaux et leurs gardes, autant de touches de couleur quand les emblèmes passent devant Emmanuel Macron et Angela Merkel. Enfin, le spectacle est venu du ciel avec le fou volant Franky Zapata venu présenter sa planche de surf à réaction au-dessus des Champs-Élysées. Spectacle tout aussi bruyant qu'impressionnant, mais sans réelle application militaire pour le moment. Mention spéciale aux hélicoptères cette année qui sont passés assez bas, parfois par groupe de 5, Caïmans et Tigres français et allemands, suivis des énormes Chinooks britanniques. Toute la place de la Concorde s'est mise à vibrer à leur passage.
Et puisque nous parlons des militaires, j'ajoute que 3 soldats sont morts en Guyane cette semaine dans une opération contre l'orpaillage. Et puisque nous venons de parler de la France, je vous indique que demain, dans Idée, nous parlerons du départ du pouvoir de Charles de Gaulle en 1969, il y a donc 50 ans, et nous essaierons de savoir ce qu'est le gaullisme aujourd'hui, demain dimanche, 17h10, heure de Paris.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Je salue quelques auditeurs, fidèles ou pas. D'abord, Alpha Idi Baldé, l'émission de cette semaine va particulièrement m'aider, écrit-il, parce que je suis dans le foutage-jalon profond, donc dans l'impossibilité de suivre la radio, comme d'habitude, écrit-il, à votre service, Alpha. Je salue aussi Hussein Ouchou à Goma, Alpha à Bamako, Larry à Libreville, Falilou à Dakar, Komi à Lomé, Medoun à Niamey, qui nous a écrit par courriel, et bien sûr aussi les clubs RFI en République démocratique du Congo.
Une semaine d'actualité.
Évoquons maintenant l'Afrique dans cette émission spéciale d'une semaine d'actualité qui veut mettre en valeur les reportages de la rédaction. Non, nous n'allons pas parler de foot. Rendez-vous pour la prochaine CAN au Cameroun dans 2 ans. Et partons plutôt pour la République démocratique du Congo pour faire un point sur le développement du virus Ebola avec d'abord un cas découvert à Goma, à l'est du pays, donc Florence Maurice.
C'était un scénario redouté à Goma, mais beaucoup s'y attendaient. MSF y est positionné pour prendre en charge d'éventuels cas depuis plusieurs mois. Des campagnes d'information y ont été menées et près de 3000 personnels de santé y sont déjà vaccinés. Reste que ce premier cas inquiète, car si sa prise en charge a été rapide à Goma, ce malade avait présenté les premiers symptômes à Butembo dès le 9 juillet, avant donc de décider vendredi dernier de faire le voyage jusqu'à Goma, un voyage de 2 jours à bord d'un bus qui transportait 18 autres passagers et au cours duquel il a réussi à passer 3 postes de contrôle sanitaire sans être détecté. C'est un peu surprenant, reconnaît Antoine Gauge, responsable du programme d'urgence Ebola de Médecins Sans Frontières. Cela montre, dit-il, qu'il nous faut poursuivre les efforts, même si, rappelle ce spécialiste, on sait qu'il est très difficile de mettre en place un filtrage qui soit à 100% efficace. Depuis dimanche, pour éviter une propagation, toutes les équipes de la riposte s'activent donc à retracer l'itinéraire exact du malade durant ces 2 jours, identifier les lieux où il a pu se rendre, ceux où il a dormi, les personnes qu'il a rencontré. Hier soir, l'OMS avait déjà listé 60 de personnes contacts. Parmi eux, la moitié avait pu être retrouvée et vaccinée.
Toujours à propos d'Ebola, en RDC, Lisa Fabian fait un point complet mardi.
On est certes loin des pics enregistrés entre janvier et juin où l'on répertoriait plus d'une 20 de cas par jour. Cette progression brutale de l'épidémie d'Ebola, 6 mois après sa déclaration, s'expliquait par la défiance de la population vis-à-vis des équipes médicales et ses soupçons sur la réalité de la maladie qui lui faisait fuir les centres de traitement. Aux rétentions de cas se sont ajoutées les attaques répétées contre des centres de santé, plus de 200 selon l'OMS. Parmi les causes avancées, un contexte sécuritaire et politique tendu après l'exclusion des villes de Beni et de Butembo du vote de décembre 2018 qui avait fait monter la défiance des populations. Dans la ville de Butembo, les différents acteurs de terrain estiment aujourd'hui que les efforts communautaires commencent à porter leurs fruits avec un recul du nombre de cas depuis 1 mois. Mais l'épicentre d'Ebola semble se déplacer de nouveau à Beni, foyer d'origine de l'épidémie, où la situation se dégrade nettement depuis le mois de mai. Pour la société civile locale, c'est la preuve qu'il faut relativiser l'optimisme des autorités dans une région densément peuplée, marquée par une forte mobilité et de nombreux échanges avec les pays voisins.
Finalement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a lancé un appel d'urgence, une alerte face à ce retour du virus. L'organisation parle d'urgence sanitaire mondiale à Genève mercredi. Jérémy Lange.
La situation sur le terrain n'a pas vraiment changé depuis la dernière réunion du comité d'urgence de l'OMS le mois dernier. Si Ebola est moins virulent à Butembo et Katwa, les cas se multiplient dans la région de Beni, les attaques meurtrières contre les personnels de santé continuent et l'argent manque toujours. Le patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, se défend d'avoir relevé le niveau d'alerte pour obtenir des fonds.
On ne déclare pas une urgence de portée mondiale pour récolter des fonds. Non, on le fait pour lutter contre une maladie. Aucun donateur n'a retiré sa contribution parce que l'OMS n'avait pas classé Ebola urgence sanitaire internationale. Mais si certains ont utilisé cette excuse pour ne pas apporter leur aide financière, alors ils ne peuvent plus le faire.
Le sujet est crucial pour l'OMS qui chiffre les besoins en centaines de millions de dollars. Crucial également, c'est la recommandation expresse de l'agence de ne pas isoler la RDC. Les frontières doivent rester ouvertes, dit l'OMS, sans quoi les traversées informelles vont se multiplier en même temps que le risque de propagation d'Ebola. C'est pourtant ce qu'il s'était passé en 2014 au moment de l'épidémie en Afrique de l'Ouest.
Sept jours en Afrique.
Suite de ce numéro spécial d'une semaine d'actualité, ce samedi 20 juillet, poursuivons notre voyage africain avec cette fois une étape au Soudan où un accord, une déclaration politique, dit-on à Khartoum, a été finalement trouvé entre les militaires au pouvoir et les opposants, la coalition civile qui manifeste depuis des mois. Correspondance régionale de Sébastien Demet.
Cette déclaration politique, comme on l'appelle, c'est le premier accord formellement signé entre civils et militaires depuis la chute d'Omar el-Béchir début avril. Le document de 22 articles avait déjà été annoncé le 5 juillet, mais il a nécessité ensuite près de 2 semaines de négociations. La coalition civile avait beaucoup d'amendements, la séance n'a pas été facile. Il a fallu faire preuve de souplesse, mais ça a fini par déboucher, explique Mohamed Asselloud Lebat, qui a présidé une ultime réunion marathon de 14 heures. L'envoyé spécial de l'Union africaine parle d'une déclaration importante. Revenir dessus est impossible, dit le diplomate mauritanien. Le texte prévoit une transition d'un peu plus de 3 ans, dirigée par un conseil souverain composé de 5 officiers et 6 civils, dont le 6e sera choisi par consensus. Au-dessus, un dirigeant militaire pendant 21 mois, puis un civil pendant les 18 autres jusqu'aux élections. Une commission d'enquête indépendante, nationale, se penchera sur les crimes commis. Les civils la voulaient pourtant internationale. Elle pourra demander des soutiens extérieurs, précise Mohamed Asselloud Lebat. Avant de lancer la transition, les partis doivent encore signé le décret constitutionnel d'une 60aine d'articles, un document clé dans lequel plusieurs points litigieux restent à régler, notamment la question d'une immunité des putschistes, totalement rejetée par les civils. Le dialogue doit reprendre vendredi.
Dialogue interrompu pour le moment, mais on vous parle de ces négociations dans nos journaux et sur le site de la radio. Bien entendu, suite de votre magazine du samedi au Mali, avec des concertations pour la paix, la sécurité et le développement en zone frontalière. Elles se sont ouvertes lundi à Sikasso, Gaël Lalex.
Wankoro est une commune du centre du Mali, à la frontière avec le Burkina Faso. Il y a 2 semaines, des hommes armés venus du Burkina l'ont attaqué, tuant plus de 20 personnes. Pour Haruna Sankaré, maire de Wankoro, il est temps que chaque État, de part et d'autre de la frontière, prenne ses responsabilités.
Au niveau des frontières, les milices et communautés travaillent maintenant conjointement, c'est-à-dire les Maliens et Burkinabés travaillent ensemble. Donc la seule solution, c'est d'abord désarmer ces milices-là et vraiment faire retourner tous les représentants de l'État dans les communes respectives. Et assurer leur sécurité, assurer la sécurité des paisibles citoyens. C'est une question de volonté de nos responsables, c'est-à-dire que de nos gouvernements, c'est une question de volonté.
Autre condition impérative à la paix, l'emploi. Les zones frontalières vivent notamment du commerce, mais les circuits sont aujourd'hui rompus. Mamadi Togola est le coordonnateur du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Il revient du centre du Mali.
Yougani, c'est une commune de la région de Koro. Il y a l'un des plus grands marchés de bétail et de céréales. C'est un marché qui se tenait chaque vendredi, les camions venaient s'y approvisionner et partaient remplis de bétail, de céréales à destination des pays voisins comme le Burkina. Mais aujourd'hui, avec le vol de bétail, les attaques des forains, toutes les activités sont arrêtées. Il va de soi que cela fera qu'aggraver vraiment la situation sur le terrain.
Les concertations doivent durer jusqu'au 18 juillet. Pour l'heure, seuls les acteurs maliens y participent.
Passons la frontière et rendons-nous au Niger cette fois pour faire le point sur le forum sur la stratégie régionale du bassin du lac Tchad contre Boko Haram. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission ces derniers mois. Il regroupait les 8 gouverneurs des zones concernées, correspondance hier de Moussa Kaka.
C'est un bilan positif de la mise en œuvre de la stratégie régionale du bassin du lac Tchad qui a été dressé au forum de Niamey. Les 8 gouverneurs de Yobe, Adamawa, Borno au Nigeria et leurs collègues du Niger, du Tchad et du Cameroun s'engagent à appliquer à la lettre les recommandations. Le premier ministre nigérien Brigitte Raffini apprécie.
Qui mieux que ces autorités pour mener des actions de proximité, pour consolider la paix et la sécurité et prévenir les risques sécuritaires.
Une approche intéressante selon l'envoyé spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Ibn Chambas.
Chaque région travaille avec des communautés locales. Va définir les priorités.
Le temps presse selon le gouverneur tchadien de la province du lac. Il faut aller au-delà des discours. Adam Nouki Sharfadjin.
Pour le moment, la coopération régionale, elle est encore dans les discours. Elle n'est pas active. Je constate que cette coopération, elle est beaucoup terne pour le moment. Nous n'avons pas le droit d'attendre. Il faut qu'on se mette très rapidement au travail pour apporter ces solutions-là.
Selon OCHA, plus de 10 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire dans toute la zone.
Sur ce sujet et sur d'autres, vous pouvez évidemment nous écrire. Je vous le rappelle, notre adresse semaine.actu@rfi.fr et nous écrire aussi sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Après le Niger, partons pour l'océan Indien où les Chagossiens veulent plus que jamais se rapprocher de l'île Maurice. Les îles de l'archipel feront d'ailleurs partie désormais d'une circonscription de Maurice. Abdoulaye Rally nous a tout expliqué.
Le temps des précautions diplomatiques pour ne pas froisser Londres et Washington sur la question chagossienne est terminé pour Port-Louis. C'est un nouveau signal que veut envoyer le gouvernement de Maurice envers la communauté internationale. L'archipel des Chagos, bien qu'elle soit occupée par les Britanniques et les Américains avec leur base militaire de Diego Garcia, fait désormais partie des circonscriptions électorales de Maurice. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité cette décision en présence de représentants chagossiens invités à cette séance spéciale. Prochaine législative, les Chagossiens auront un représentant au Parlement mauricien. Maurice tente par tous les moyens de donner une visibilité à ce dossier depuis que la Cour internationale de justice a reconnu sa souveraineté territoriale en février dernier et que trois mois plus tard, l'Assemblée générale de l'ONU a appelé Londres à cesser son administration de l'archipel des Chagos dans les plus brefs délais.
Suite de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité qui privilégie ce samedi les reportages, en Afrique notamment, et d'ailleurs, puisque nous parlons du continent, sachez que si vous nous écoutez à Freetown, il faudra bientôt changer de fréquence et nous rejoindre sur le 89.7, toujours bien sûr sur la FM. Et nous allons conclure pour aujourd'hui notre voyage en Afrique du Sud avec la disparition bien sûr de Johnny Clegg, celui que l'on appelait le Zoulou Blanc, Sébastien Gédor.
Johnny Clegg, c'est l'homme qui a donné à des tas d'enfants blancs l'envie d'être noirs. Quand il danse, en habit traditionnel, le Zoulou blanc lance un pied et un bras en l'air. Ses posters, cheveux bouclés, ornent la chambre de millions d'adolescents dans les années 80, faisant de Johnny Clegg le chanteur engagé par excellence. Un engagement qu'il paye au prix fort, censure, arrestation. Avec ses deux groupes, Djuluka et Savuka, Johnny Clegg se cache dans les églises, les foyers de travailleurs, pour donner des concerts clandestins. La sortie de la chanson Assim Bonanga, littéralement on ne l'a pas vu, est un choc à l'époque en 1987. Dans une interview à RFI, Johnny Clegg rappelait que sa génération, effectivement, n'avait jamais vu physiquement Nelson Mandela en prison à Robben Island. Il était interdit d'avoir des photos du leader de l'ANC sous peine de prison. Johnny Clegg, lui, prononce son nom, ce qu'aucun chanteur n'a fait avant lui. Assim Bonanga sera censuré en Afrique du Sud. Malgré la fin de l'apartheid, Johnny Clegg avait fait part de sa tristesse de voir l'Afrique du Sud toujours confrontée à la pauvreté et à la violence. Sa chanson The Crossing était dédiée à son percussionniste Doudou Zoulou, assassiné au fusil mitrailleur dans le KwaZulu-Natal.
Tiens, restons en Afrique du Sud afin d'écouter un présentateur d'une radio qui a très bien connu Johnny Clegg. Il en souligne le rôle au temps de l'apartheid à Johannesburg, Claire Bargelès.
Lors d'interviews ou de concerts, Richard Nwamba, présentateur radio basé à Johannesburg, a régulièrement croisé le chemin de Johnny Clegg. Il se souvient de son courage alors qu'il bravait les lois de l'apartheid.
À 17 ans, il a formé son groupe Djuluka. C'était comme défier directement le gouvernement de l'apartheid. Les blancs vivaient d'un côté, les noirs de l'autre. Alors eux qui jouaient ensemble, c'était comme s'ils faisaient un bras d'honneur. À cette époque, il faut se souvenir que tout pouvait arriver. Il aurait pu être tué.
Car Johnny Clegg ne s'inspirait pas seulement de la musique zoulou, mais aussi de sa culture dans son ensemble, dont il est tombé amoureux.
C'était l'un des premiers blancs à vouloir jouer ce qui était considéré comme une musique inférieure, la musique noire. Mais il a rendu les langues noires respectables, tout comme les danses et la culture.
En 1987, il compose Assim Bonanga, une chanson en soutien à Nelson Mandela. Elle est censurée en Afrique du Sud, mais Richard Mwamba se souvient comment elle est devenue une arme pour combattre le régime.
À travers la musique, il a rendu les gens conscients. Assi Bonanga en Zoulou veut dire « nous ne l'avons pas vu ». Non seulement on a mis ce vieil homme en prison, mais en plus on a interdit la publication de photos de lui. Cela montrait combien le gouvernement était répressif.
Au cours de sa carrière, le chanteur aura vendu plus de 5 millions d'albums. Il avait arrêté de chanter après une longue tournée d'adieu conclue quelques mois avant sa mort.
C'est la fin de ce numéro spécial d'une semaine d'actualité, 100% reportage, retour de nos invités dès la semaine prochaine, évidemment. Une semaine d'actualité réalisée bien sûr par Vanessa Rovensky. Nous vous retrouvons donc demain pour Idée. Nous parlerons du départ du pouvoir de Charles de Gaulle il y a 50 ans, en 1969. Nous serons en compagnie d'Arnaud Tessier qui vient d'écrire un livre très intéressant sur ce moment d'histoire. Avec lui, nous nous demanderons aussi ce que signifie être gaulliste aujourd'hui. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Et puisque c'est l'été, puisque nous parlons de musique, revenons aussi sur la disparition, la semaine dernière, cette fois, du grand musicien, compositeur et chanteur brésilien, João Gilberto. Il interprète, pour conclure cette émission, en quelque sorte, Samba da Minha Terra.
O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito.
tu não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. Danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole.
Géop.